Hey. How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
Démineur. L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Je suis Marion Litté de Combini Binge et cette semaine, je vous propose de chausser vos lunettes, de prendre un carnet de notes, de relire Freud et Lacan et on va se plonger ensemble en thérapie et analyser la série d'Arte que tout le monde regarde en ce moment. On se demandera si elle est aussi réaliste qu'il n'y paraît avec Françoise Hirsch, psychologue clinicienne et conseillère en psychologie des personnages avec la société Hirsch Barfetti. Bonsoir Françoise. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés également, Anaïs Bordage, co-présentatrice des podcasts Ami et Pic TV à Slate. Salut Anaïs.
Salut.
Et Marion Miclet, critique série pour Le Point Pop. Hello Marion.
Hello Marion.
Ouais, deux Marion dans un seul podcast. Vous êtes bénis. Au cours de ce podcast, on se demandera aussi comment les psys sont représentés dans les séries et plus largement si nos séries préférées ne jouent pas un peu le rôle de psy sans qu'on ne s'en rende compte. Allez, c'est parti, vous avez le droit de vous allonger sur votre divan pour écouter cet épisode.
Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai suivi pour le Bataclan.
Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
Je suis là pour avoir un avis d'expert. Mais je suis pas malade, quoi.
Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
En thérapie, c'est l'adaptation française de Bi Petit Poul, une série israélienne imaginée en 2005 par Agaï Lévy au concept aussi simple que génial. Imaginez plutôt un psy brillant mais torturé, en proie au doute, qui reçoit un ou une patiente par épisode, chaque épisode correspondant à un jour de la semaine. Et le vendredi, il va chez sa propre psy. Vous obtenez une série bavarde, à la fois spécifique et universelle, facile à produire et exportable partout, notamment aux États-Unis, où le remake In Treatment avec Gabriel Byrne a été diffusé entre 2008 et 2010 sur HBO et il avait cartonné. Mais en France, terre de psy par excellence, il aura quand même fallu attendre 15 ans pour voir le concept adapté sur Arte. Alors déjà, première question, pourquoi selon vous il a fallu attendre aussi longtemps pour voir débarquer cette série en France ? Françoise ?
Bah, moi, je pense qu'une des raisons est que cette série réclamait un savoir-faire spécifique pour réussir l'adaptation et obtenir le succès qu'elle avait obtenu en Israël et aux États-Unis. Et ça, ça demande du temps. Et puis, l'autre raison, il fallait aussi, à mon sens, que l'adaptation, et c'est ce qui s'est passé, corresponde à son public et à son histoire, tout en restant fidèle à la série originale. Et à l'origine, Betty Poul a voulu montrer dans la série quel était le rapport des personnages au trauma induit à l'époque par l'état de guerre en Israël. Et l'ancrage fort était cette problématique commune à toutes les figures de la série qui étaient impliquées, bien évidemment, leur corps défendant. La déclinaison française, dans la même optique, elle s'inscrit dans une temporalité précise, l'attentat du Bataclan, qui de même manière pouvait servir aussi de prétexte à réunir des patients autour d'un drame commun. Drame qui a des effets singuliers chez chacun d'entre eux, on le voit bien dans la série, et dont il va falloir tenir compte pendant le travail de l'analyse et de l'analyse. Donc cette situation a parlé et parle encore à tout le monde. Et aujourd'hui, en plus, cette série elle apparaît en pleine pandémie, autre crise qui nous réunit tous et nous rend peut-être d'autant plus sensibles à la perte de repères et à la recherche de sens qui anime les personnages de la série. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'elle est arrivée à point nommé.
D'accord, donc c'était le bon timing. On n'a pas eu d'autres traumas avant est-ce que en termes de série, elle n'aurait pas pu arriver avant en thérapie?
Bah, je pense qu'effectivement, au moment où c'est arrivé aux États-Unis, il y avait aussi, on était en pleine guerre en Irak, en Afghanistan, donc il y avait une vraie problématique et d'ailleurs qui était traitée à travers le personnage du soldat, qui là du coup est un mec de la BRI dans la version française. Donc je pense que oui, c'était peut-être en développement avant, mais le 13 novembre a vraiment fourni un prétexte très fort, je pense, narrativement, pour que la série ait un peu ce lien qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes, quoi.
Alors, la série, elle a été développée par Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d'Intouchables, qui sont donc toujours aussi passionnés par la société française. Ils sont venus avec un casting ciné un peu all-star, composé, donc je les cite, de Carole Bouquer, Eda Kateb, Clémence Poésie, Pio Marmaille, Mélanie Thierry, Frédéric Pierrot incarne le psy, Philippe Dayan, et Céleste Brunkel est un peu la seule inconnue. Elle joue assez bien une ado en souffrance, Camille. La série repose donc complètement sur ses interprètes, pour le coup, toujours, enfin plus que jamais, on va dire. Alors, est-ce qu'ils vous ont convaincu ces patients, Marion ?
Oui, moi je les trouve convaincants, surtout dans les moments de débordement, de doute, quand ils se remettent en question. C'est assez drôle parce que parfois j'imagine leur conversation avec le psy aller dans une direction. En fait, ils vont dans une autre direction. Et je pense qu'en tant que spectateur, en fait, on s'immerge dans leur cheminement de pensée. Et c'est plutôt bon signe si parfois on est surpris ou dérouté, puisqu'en fait, en thérapie, peut-être une de ses fonctions, c'est aussi de nous confronter à notre propres attentes, à la fois en tant que série-film, mais peut-être plus généralement avec le processus d'analyse, surtout si on l'a déjà pratiqué. Et pour une note personnelle, moi, c'était vraiment intéressant cette série, puisque j'ai déménagé à Londres juste avant les attentats, mais je vivais dans ce quartier de Paris. Et donc, même si c'est de la fiction, ça m'a aussi permis, moi, de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'était convaincant de ce point de vue-là.
Et Anaïs, au niveau de l'interprétation des patients, t'es aussi convaincue ?
Ouais, c'est marrant parce que moi, je trouve que le 13 novembre est vraiment à peine effleuré. Enfin, j'espérais en tout cas que ce serait un peu plus évoqué dans la série, alors qu'en fait, là, c'est une transposition, parfois mot pour mot, de la version israélienne et américaine, qui sont enfin les deux seules que je connais, moi. Mais oui, niveau performance, je trouve que tout le casting est excellent dans son ensemble. Et tu le disais, l'actrice qui joue le personnage de Camille est vraiment bonne. Après, je trouve que c'est difficile de passer après Mia Wasikowska, qui était vraiment la révélation de In Treatment, la version américaine. Mais elle s'en tire vraiment très, très bien, je trouve.
Ouais. Après, il y a aussi, le petit bémol qu'on peut faire justement à la série, c'est qu'elle est apparemment assez copier-coller. Moi, j'ai pas vu toutes les versions, mais assez copier-coller au niveau des personnages et donc au niveau de la, enfin, tout ce qui fait la richesse des personnages, ça a pas vraiment été updaté, quoi. Et c'est vrai que c'était une autre de mes questions qu'on peut aborder tout de suite, c'est est-ce que la série parle bien, est-ce que c'est satisfaisant la manière dont elle parle des attentats, en fait?
Moi, je trouve pas. Personnellement, c'est quelque chose qui, comme je pense beaucoup de Français et des personnes qui vivent à Paris, qui m'a beaucoup touchée et où j'étais dans le quartier le soir du 13 novembre. Et j'attendais un peu plus de catharsis de ce point de vue-là. Et c'est vrai que non, effectivement, moi, j'adorais In Treatment, donc je connais très bien la série américaine. Et j'ai été assez déçue de voir que c'était quasiment la même série, les mêmes personnages, les mêmes dialogues. Et que le 13 novembre est plus un prétexte, encore une fois, de lien, mais que les spécificités, en fait, de cet attentat-là et de ce que ça signifiait aussi pour la culture française sont pas vraiment abordées, je trouve. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça un peu décevant.
De votre point de vue de psy, Françoise, par rapport à cette problématique des attentats, vous trouvez que c'est abordé aussi de manière peut-être un peu artificielle ?
Oui, moi je suis assez d'accord avec Anaïs. C'est un prétexte. Et bon, alors c'est très vite évoqué dans les deux premiers épisodes, avec la chirurgienne, outre la crise identitaire, qui parle plus de suite de ce qui, de ce qu'elle a pu vivre en confrontation avec cette situation. Le policier de la BRI, son traumatisme infantile. Donc, on entend quand même ce qui s'est passé et ce traumatisme aujourd'hui réactualisé par l'attentat pour lequel il intervient au Bataclan. Il présente quand même un vrai état de stress post-traumatique. Donc, de ce point de vue-là, c'est abordé, mais je crois que ce n'est pas le sujet de la série. Ce n'est vraiment pas le sujet de la série et je crois que ça n'a pas été effectivement représenté comme ça l'avait été sur la série israélienne et encore plus sur la série américaine.
Aussi un risque de, enfin, encore une fois, donc moi j'étais pas à Paris, mais c'est vrai que on se dit ça peut avoir un côté un peu voyeuriste d'insister un peu trop sur le trauma, les détails, etc. Et par exemple, il y avait ce documentaire Netflix des frères Naudet qui mettent vraiment là aussi énormément la parole en avant, la parole des survivants, et là c'est vraiment une plongée dans minute par minute, les événements, etc. Donc, peut-être que la série aussi de fiction voulait prendre une démarche différente qui était de cette idée de la petite histoire dans la grande histoire et comment ça a un écho sur ces personnages, mais ce n'est pas non plus le sujet essentiel de chaque conversation chez le psy.
Je suis fatigué, Esther. J'ai plus l'appétit, j'ai plus le désir. Je supporte plus les gens ni le monde comme ils tournent. Je sais pas, c'est peut-être le vieuxconisme qui est en train de me frapper. Et surtout, mes patients, J'ai l'impression de plus avoir la patience avec eux. Je crois que j'arrive plus à les supporter. S'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
Il y a un petit culte qui commence à se développer autour du docteur Dayan. Moi, j'ai deux copines de mon entourage qui m'ont avoué un crush sur ce personnage. Bon, perso, j'ai un peu du mal à l'entendre, mais bon, on va dire que le transfert s'est effectué. Françoise, vous l'avez trouvé comment, ce psy ?
Non, mais il est pertinent, il est crédible. Hein. Et je comprends qu'il ait plu à beaucoup de monde. Hein. Bon, alors, il a un positionnement, une éthique, même si elle vacille pas mal, hein. Mais il a un savoir, une expérience professionnelle. Tout ça, c'est juste. C'est justement représenté dans la série. Il maîtrise bien la reformulation, il fait des interprétations à bon escient, il analyse les situations en leur donnant le sens qui manque aux différents patients pour qu'ils puissent entendre et comprendre autrement leur souffrance. Et puis, il est aussi rassurant parce qu'il écoute, bien évidemment, c'est son boulot, hein, mais il parle. Et en parlant, il renvoie aux patients, enfin, à tous ses patients, une interprétation de ce qu'il dit en se servant de son expérience professionnelle, de ses connaissances théoriques et aussi de sa culture. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait crédible. Ce qui est également intéressant, enfin, ce que moi, j'ai trouvé très intéressant dans cette série, c'est qu'elle nous donne à voir aussi que le psy, c'est pas quelqu'un de surhumain et d'infaillible. Donc, de ce point de vue-là aussi, il est crédible parce que lui aussi connaît ses propres problématiques dans sa vie privée qui est compliquée, qui est instable, mais aussi au plan professionnel quand on nous le montre déstabilisé, en particulier dans sa difficile gestion du transfert amoureux, parfois même désemparé, impuissant. Souvenez-vous, il ne peut pas retenir Adèle qui veut partir en Syrie. Et puis, il dit très bien à son superviseur Esther qu'il ne dort plus, qu'il est épuisé. Il est terriblement humain. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, il est crédible. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que la série, elle rendait compte de la normalité de la vie de ce psy. Et de ce point de vue, elle démystifiait pas mal l'image que certains peuvent avoir du psychanalyste. Ouais.
Alors, en tant que personnage de fiction, Anaïs Marion, vous l'avez trouvé… parce que c'est pas facile de faire une fiction avec centrée sur un personnage de psy, c'est assez rare. Est-ce que ça tient la route ?
Moi, je trouve qu'il est très bon. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est beaucoup plus chaleureux et même peut-être plus frontal avec ses patients que l'était, par exemple, Gabriel Byrne dans la version américaine. Mais j'aime beaucoup cet acteur et je trouve qu'il remplit très bien le rôle. Il a un côté chaleureux. Il met en confiance tout de suite. Donc, je pense que c'est assez important pour jouer un rôle pareil. Et en même temps, oui, comme disait Françoise, il est très faillible. Il est assez exécrable, notamment avec sa femme. Il l'appelle toujours à la rescousse pour venir nettoyer, pour venir régler ses problèmes. Il est un petit peu sexiste, parfois, sans s'en rendre compte.
Oui, ouais. C'est peut-être ça qui m'a empêchée de, de tomber à la renverse.
Et séduisant, effectivement, parce que j'avais plutôt envie de le secouer et de lui dire « parle mieux à ta femme ». Mais en même temps, en tant que personnage, oui, je trouve qu'il est bien écrit parce qu'il est complexe, quoi. Il est multidimensionnel, donc sur ce plan-là, c'est réussi.
Quel personnage t'as le plus touché dans la série, Marion ?
Pour moi, c'est un peu tous, parce que je pense que la série ne fonctionne que si vraiment on développe un rapport assez intime avec les personnages. Mais j'ai bien aimé Camille, l'adolescente jouée par Céleste Brunkel. Peut-être parce que je ne connaissais pas l'actrice et du coup, on se projette peut-être plus facilement dans sa trajectoire en tant que personnage. Et je trouve aussi intéressant que c'est une adolescente qui voit un thérapeute et on se met un peu à sa place. Ça peut être à cet âge-là assez effrayant, mais aussi formateur. On a l'esprit un peu malléable, ce qui peut être dangereux ou négatif, mais entre de bonnes mains. Donc le docteur Dayan, c'est intéressant de voir son évolution et son histoire.
Ouais, moi, c'est peut-être le petit reproche que je ferais à la série aussi, c'est que du coup, je me suis bien plongée dans l'histoire de Camille, mais peut-être aussi parce que ce n'était pas un visage connu. J'avais l'impression parfois que, par exemple, le couple formé par Pio Marmaille et Clémence Poésy, c'était Pio Marmaille et Clémence Poésy devant moi avec leur personnalité. Parce que je pense aussi que les acteurs sur une série comme ça, ils mettent beaucoup plus que d'habitude, je pense, dans leur personnage. Et du coup, par moment, je voyais plus forcément, enfin, plus les acteurs que la personne. Mais bon, l'autre chose qui m'a un peu agacée, c'est une question pour vous, Françoise, c'est que qui est un transfert. Oui, donc on sait que dans la psychothérapie, c'est même demandé, quoi. Mais qu'il y ait la transgression du psy et la manière dont le psy réagit et comment on crée une espèce d'histoire d'amour, moi, j'ai pas trouvé ça hyper crédible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué, Françoise, ou est-ce qu'il y a d'autres choses en termes juste de crédibilité? Là, on fait un petit fact-checking pour voir est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment choqué, des clichés dans la série.
Oui, bien évidemment, il y a certaines choses qui m'ont choquée, mais bon, alors, on est d'accord que dans l'ensemble, c'était assez crédible. Parfois, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que le trait était forcé, voire caricatural. Comme par exemple, dans la situation duale qui veut recréer les conditions d'une psychothérapie, je dirais, moi, d'inspiration psychanalytique, hein, c'est pas une psychanalyse qui est montrée, qui est donnée à voir. Hein. Dans la série, le thérapeute et le patient, par exemple, ils disposent de 25 minutes. Et dans ce temps imparti, le psychanalyste est très, très interventionniste dans un contexte quand même toujours d'intensité émotionnelle maximale. Bon, alors, donc, ces consultations, elles évoluent, moi, j'ai trouvé souvent dans une ambiance dramatique où les manifestations agressives à l'égard du thérapeute, ben, elles sont récurrentes.
Oui, il y a beaucoup de violence dans la série. On espère que ce n'est pas comme ça pour tous les psys parce que...
dire qu'en fait, cet état de fait, c'est vraiment quand même assez éloigné, si vous voulez, de la réalité relationnelle qu'on vit avec nos patients. Alors, bien sûr, il existe des mécanismes de défense chez nos patients qui s'expriment parfois par des réticences à notre égard vis-à-vis, si vous voulez, du bien fondé de la situation thérapeutique. Alors, ils vont nous dire, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Est-ce que vous allez faire mieux que les autres? Mais très rarement, l'agressivité se développe, comme dans la série, par des attaques très personnelles à l'encontre du psy, en rapport avec son intimité, sa vie privée, et pouvant aller jusqu'au passage à l'acte physique. Souvenez-vous, il a failli se battre avec le flic de la BRI. Ouais. Donc, dans la réalité, moi, ce que je peux dire de ma pratique, c'est que les patients, si vous voulez, ils expriment plutôt aux thérapeutes, à moi et à nous thérapeutes, qu'ils sont attentistes de l'aide qu'on va pouvoir leur apporter. Et puis, en principe, ils ne mettent jamais les pieds non plus sur le canapé. Hein. Ils ne répondent pas au téléphone, chaque fois qu'ils sonnent. Ça aussi, ça sont les petites choses qui m'ont choquée. Et ne posent pas non plus des questions indiscrètes aux thérapeutes sans lien avec le motif de leur venue. Donc, si vous voulez, tout ça, ce n'est pas très crédible. Mais bon, il fallait bien intéresser le spectateur. Si on avait fait un documentaire sur la psychanalyse, ben vous auriez arrêté au bout du deuxième épisode. Ça aurait été extrêmement pénible à voir.
Ouais, donc, non, c'est sûr.
Je voulais juste rajouter que le discours des patients, en fait, il est très construit. Ça vous l'avez remarqué. L'expression de leurs problématiques, elle est riche. Le récit de leurs histoires s'enchaîne très vite. Et ça nous donne envie, nous, spectateurs, de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer. La réalité, c'est pas du tout ça. Il est très rare que le patient apporte autant de matériel au thérapeute, surtout en une seule séance. Le travail se fait beaucoup plus lentement, avec plus de difficultés d'élaboration du patient. Juste pour répondre sur la question du transfert de la chirurgienne, il est complètement excessif, ce transfert. Alors, il y a des choses qui sont vraies dans ce fameux transfert. Il y a des choses vraies sur le fait que le psychanalyste, ben, vous l'avez vu, devient un personnage central dans la vie de cette patiente, Ariane. Et elle va déposer chez lui ce qu'elle a de plus intime. Et à ce moment-là, chez le psy, ben, l'émotion va déborder. Mais tout ça est montré quand même, je dirais, de façon très excessive.
Mais c'est vrai que ça permet, ça permet aussi de rendre ce psy, enfin, de faire comprendre aussi la problématique des psys à un grand public qui voit vraiment le psy comme un espèce de robot qui est juste là pour écouter et qui des fois est méchant. Alors que, en fait, le psy, ce que je trouve que la série réussit bien à faire, c'est qu'il absorbe aussi tous les traumatismes et toutes les histoires d'une autre personne et que, ben, après, faut qu'il fasse le ménage entre ça et ses propres traumas et que, ben, des fois, ça, dans sa tête, enfin, c'est un être humain et que même s'il a choisi ce métier-là, c'est pas un robot, quoi.
Tout à fait, c'est ça.
Alors, la série, elle est d'ores et déjà un hit. Arte communique assez joyeusement dessus, évidemment, en parlant de succès phénoménal, avec le chiffre de 15 millions de vidéos vues sur la plateforme Arte, où En Thérapie a donc été mise en ligne le 28 janvier, je rappelle. Est-ce que ce succès est étonnant?
Non, moi, je pense pas. Enfin, on sait que ça a déjà très bien marché dans les autres versions qui avaient été déclinées. Et là, le casting est vraiment excellent, on l'a dit. Donc, je pense que ça a attiré énormément de monde. Moi, je sais que ma mère, voilà, elle avait envie de voir Reda Kateb, elle avait envie de voir Pio Marmaille et Frédéric Pierrot. Donc, elle était... et aussi, les personnages féminins, je citais que des personnages masculins. Mais donc, effectivement, oui, je pense que ça a attiré un grand public parce qu'il y avait un casting prestigieux et que la série, elle est bien écrite et qu'elle repose sur des bases solides qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres pays.
Peut-être ce qui explique aussi le succès en ce moment, c'est, pour reprendre un peu ce que disait Françoise au début, c'est que on est voilà en pleine pandémie, certains d'entre nous sont confinés, on n'a jamais autant regardé de séries, et puis il y a un côté un peu fascinant de rentrer dans le cabinet d'un psy. En fait, autant regarder une série que faire une séance de thérapie, c'est un peu un moment hors du temps qu'on prend pour soi, on laisse le monde extérieur à la porte, donc ça reproduit un peu ça fait écho en fait entre notre pratique de sériephile et notre pratique personnelle. Et ce que je trouve qui a été intelligent aussi de la part d'Arte en termes de diffusion, donc autant plutôt sur le format que sur le fond, c'est que ils ont vraiment donné l'autonomie aux spectateurs de soit binge-watcher les épisodes en ligne à leur rythme, en fonction de leurs besoins ou addictions. Et en même temps, on peut aussi se mettre au rythme de la diffusion live sur Arte, et la série devient ce rendez-vous cathodique un peu à l'ancienne. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin de tradition et que c'est un rythme de partage et d'échange qui est bénéfique aussi.
Sur le format, justement, j'allais ajouter qu'il est quand même assez inhabituel en France, puisque donc on est sur des blocs de 20-30 minutes et on a 35 épisodes. On n'est pas obligé de les consommer d'affilée. On peut aussi décider de suivre que les séances d'Adèle, par exemple, et de regarder que ces séances-là. Bah, du coup, les critiques françaises ont été plutôt dithyrambiques. Marion, Anaïs, mes critiques séries de ce soir, vous conseillez cette série à nos auditorices?
Moi, oui, je le conseille. Je pense que c'est une bonne série. Je pense que si vous avez vu d'autres versions, ça a moins d'intérêt. Donc, si, par exemple, vous êtes fan de In Treatment, vous trouverez peut-être pas grand-chose de nouveau, sauf si vous êtes fan d'un interprète, par exemple, que vous avez envie de retrouver. Mais sinon, oui, si vous connaissez pas vraiment le principe de la série, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. C'est un très bon casting, c'est bien écrit. Et effectivement, on n'est pas obligé de tout regarder. On peut sélectionner les épisodes. Donc ouais, complètement.
Marion ?
Oui, moi je trouve que c'est une série, c'est un flot de paroles, etc. Donc ça dépend aussi de l'humeur dans laquelle on est. Mais justement, je pense qu'en ce moment, quoi que le spectateur ait envie de voir et ait besoin de voir, si c'est de s'asseoir sur le divan avec ces personnages-là et que ça fait ressortir des choses en eux ou que c'est juste... l'envie de se plonger dans d'autres histoires, je pense que c'est une bonne chose.
Ouais, c'est vrai que ça peut être une question. Est-ce que on peut se passer de psy si on garde en thérapie, Françoise?
Non, je pense pas qu'on puisse se passer de psy si on regarde en thérapie. Mais ce qui est sûr, c'est que, outre le fait que c'est une série qui est dans l'air du temps, c'est quand même une série qui explore l'intime des patients, ce qui renvoie à notre propre intimité. Donc, ouais. De ce point de vue-là, si vous voulez, il y a un côté quand même universel dans ce qui est présenté. Ça parle du couple, ça parle de vous, ça parle de moi, ça parle de la souffrance, ça parle de la colère, des difficultés. Et en ce sens, elle a un pouvoir cathartique. Je dis pas qu'elle a un pouvoir thérapeutique, je dis qu'elle a un pouvoir cathartique. Donc, pour répondre aussi à votre question, c'est pas étonnant qu'elle ait autant de succès. Et puis, encore une fois, elle survient dans un contexte sanitaire où tout le monde va plus ou moins bien.
Ah ouais, non, c'est sûr.
Est-ce que je peux aussi poser une question rapide à Françoise?
Oui.
Si vous souffrez de stress post-traumatique encore ou quelque chose qui vraiment est difficile avec les attentats, est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut vraiment éviter la série, en fait, même si c'est en toile de fond seulement ou...
Non, je pense pas qu'il faille l'éviter. Je pense que justement, elle révèle cette série que c'est quelque chose qui peut exister. Il y a peut-être finalement des individus qui ont regardé cette série et qui ont écouté attentivement ce que disait Adèle, en ressentant peut-être ou en identifiant peut-être ce qu'ils avaient pu sentir chez eux. Et c'est peut-être pour ces personnes-là la possibilité justement de se dire qu'ils peuvent être aidés. Qu'on peut les comprendre et que finalement cette série parle de quelque chose qu'eux-mêmes ont connu et qu'ils connaissent encore et dont peut-être ils n'ont pas été guéris. Donc je crois que je vois pas, si vous voulez, je vois pas de contre-indication à ce qu'on puisse regarder une série de ce genre-là, du tout.
Merci.
Et pour finir sur En Thérapie, ben moi je dirais que j'ai beaucoup aimé la série. Je trouve qu'elle milite pour qu'on prenne le temps de s'écouter. Elle tente de réconcilier la société française. Après, mon bémol, c'est que je trouve qu'elle manque de diversité dans le choix de ses patients. Il y aurait pu avoir un petit update, voilà, sachant la société dans laquelle on vit et la manière dont les séries représentent davantage la diversité de la des populations, sachant qu'elle a quand même 15 ans, cette série à la base. Je trouve quand même qu'ils auraient pu être un peu plus modernes, on va dire, dans la représentation. Moi, j'attendais par exemple un personnage LGBT, j'aurais trouvé ça assez passionnant, en fait, dans une série sur les psys, connaissant le passif entre les psys et les LGBT, par exemple.
I'm not sure what I'm supposed to be doing.
We can just talk about anything you want.
Like what?
Miriam, we all have some emotions we suppress. Feelings we don't share with anyone, sometimes not even ourselves. We keep them bottled up. And of course, this goes for all of us.
D'autres shows ont mis en scène des séances chez le psy récemment. Moi, j'ai vu l'excellente série turque, Ethos, où le dernier épisode de Foria, qui était consacré au personnage ado et trans de Jules, qui était donc en séance chez sa thérapeute. Il y a même, accrochez-vous, un reboot de In Treatment, qui est le remake US de Pitbull. Donc, un reboot d'un remake. Alors, on a évoqué cette question. Pourquoi, selon vous, les séances chez le psy ont tellement la cote en ce moment? C'est une tendance assez profonde, j'ai l'impression.
Je pense que ça accompagne sans doute une évolution de la société en fait actuelle, ou enfin par rapport à il y a 5 ou 6 ans, on parle beaucoup plus de santé mentale, en tout cas autour de moi. Notre rapport à la thérapie et au psy est devenu beaucoup moins tabou. Je connais beaucoup plus de gens qui vont en thérapie, qui n'ont aucun problème à parler de leur psy. Donc, je pense que c'est une évolution un peu naturelle et que c'est pour ça qu'on va le voir un peu plus, parce qu'il y a une curiosité de plus en plus forte. Et comme on l'a dit, là, en pleine pandémie, même le gouvernement, en fait, s'est mis à parler de santé mentale et à dire que c'était une vraie préoccupation. Et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin aussi d'une thérapie. Donc, je pense que ça tombe vraiment à point nommé. Donc pour moi déjà c'est une piste assez évidente, et ensuite en termes de narration, dans les séries on a besoin d'un arc qui évolue et qui puisse continuer sur de nombreux épisodes, et la thérapie à mon avis ça offre vraiment quelque chose de parfait pour montrer un peu l'intériorité des personnages et un peu leur permettre de parler de choses dont ils parleraient pas naturellement avec d'autres personnages par exemple.
Je vais reprendre le fil justement sur la dramaturgie des personnages, parce que Françoise, en plus de votre travail de psychologue clinicienne, vous avez également lancé donc une entreprise avec votre collègue Véronique Barfetti, dont je parlais au début de l'émission, de conseils en psychologie des personnages sur les films et sur les séries. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce métier qui m'a l'air assez passionnant, et dans quelle situation vous intervenez ?
Il est passionnant. Alors, notre projet, Véronique et moi, en fait, ça consiste à utiliser les compétences qui sont les nôtres et proposer un travail qui va croiser, en fait, l'imaginaire de l'auteur scénariste, hein, l'auteur ou le scénariste, avec les connaissances en psychologie clinique et en psychopathologie. En fait, on part du principe que l'apport de la psychologie aide à mieux définir un personnage et sa problématique, et que incarner des personnages, les installer dans une réalité, c'est bien, mais il faut enrichir finalement la fiction avec l'idée que les traits de caractère des personnages doivent être constitutifs de l'histoire elle-même. Donc, il va s'agir d'utiliser, si vous voulez, la psychologie comme un outil créatif. C'est aussi identifier la spécificité que l'auteur veut donner à ses personnages afin de la structurer. Il a une idée et nous, on est là pour l'aider finalement à dessiner le mieux possible son personnage, le renforcer dans la pertinence surtout et la cohérence. Alors, en fait, il s'agit de bien saisir les profils de personnalité et tout ça toujours dans cette espèce de cohérence psychologique qui va donner du sens au récit. Lorsque les problématiques des personnages, ça vous avez dû le constater, sont mal cernées, l'identification n'est pas possible, votre identification en tant que spectateur va être difficile, puisque vous n'allez pas saisir la logique des comportements et des actions. Et finalement, l'identification, elle porte le film. Et en ce sens, si vous voulez, notre intervention, elle vise à améliorer et aider le travail de la construction du personnage dans sa spécificité, lui donner du corps, du psychisme, de la consistance, de l'épaisseur. Du reste, parfois, quand on travaille avec les scénaristes, on invite les personnages qu'ils ont imaginés à venir faire une séance chez nous. Et comme ça, on les dessine et on arrive à les parfaire. Bon, alors, on a travaillé sur plusieurs projets de séries, de films qui ne sont pas encore sortis. Donc, je ne peux pas vous en parler de façon concrète. Hein. Je n'ai pas le droit de le faire parce qu'on est une agence qui est jeune. Mais on travaille, si vous voulez, dans l'optique que je viens de vous décrire.
D'accord.
Renforcer la crédibilité et la cohérence psychologique et psychopathologique du personnage.
D'accord, ça m'a l'air très intéressant. Dommage qu'on n'ait pas un petit exemple, mais
bon, je comprends.
Non, je comprends. On avait un peu posé la question, mais je me demandais si le personnage du psy lui-même était finalement un bon personnage de série ou pas. Parce que ils sont souvent sur un plan secondaire. Moi, la seule protagoniste dont je me souviens qui apparemment joue un rôle très important. Bon, alors là, je vais être sur une confession, mais moi, je n'ai pas vu Les Sopranos. Mais Les Sopranos, ça parle quand même d'un mafieux qui va chez la psy, et c'est un personnage important qui est là du début à la fin de la série. Mais à part elle, je me demande est-ce que c'est parce que la série joue déjà le rôle de psy que c'est difficile d'avoir un psy à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a souvent deux modalités pour les personnages de psy dans les séries, avec soit dans un rôle plutôt secondaire et soit dans un rôle principal. Et déjà, on a aussi cette évolution d'une tonalité plus comique et peut-être caricaturale dans le passé vers quelque chose de plus réaliste aujourd'hui. Et je pense que si le psy est en personnage secondaire, il a plus un rôle d'accompagnement, ce qu'on disait. Il est une sorte de miroir de la psyché des personnages principaux et on suit leur cheminement intérieur. On est placé en tant que spectateur dans l'empathie de comprendre ce qui se passe. Et c'est intéressant de voir aussi comment des moments de eureka, un peu en séance de psy, vont avoir des conséquences sur l'action, sur le récit, ou si les personnages résistent. Et après, dans le rôle de personnage principal, quand même, il y en a. Hein. Et souvent, là, ils sont imparfaits. C'est des psys qui, justement, quand ils sont mis au centre de la série, par exemple, il y a la série Casual, où un des personnages principaux est psy, et on voit qu'ils ont vraiment leurs propres problèmes et que c'est ce contraste entre eux. En séance, ils vont aider des gens, mais ils n'ont pas forcément leur vie personnelle en ordre. Donc, c'est ce contraste.
Ça, c'est le conflit parfait, quoi. À chaque fois, c'est l'ironie. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc voilà. C'est...
Effectivement.
C'est vrai que moi, ce qui me gêne des fois dans la représentation des psys, c'est le côté eureka dont tu parles, Marion, en fait, que je trouve un peu artificiel. Parmi tous les exemples qu'il peut y avoir, moi, je me souviens, par exemple, de je crois que c'est dans la saison 4 de Dawson, le personnage de Jen va chez le psy. Et en fait, après plusieurs séances, tout d'un coup, il y a la grande révélation que, en fait, le vrai problème, c'est qu'elle ne s'aime pas et qu'il faut qu'elle se pardonne. Alors, le psy, il a fait tout un laïus pour lui expliquer qu'elle est une jeune fille brillante et géniale et qu'il faut qu'elle s'aime. Et donc, ça paraît assez, assez artificiel. Mais c'est vrai que ça, c'est un des clichés qu'on peut retrouver. Françoise, est-ce qu'il y a un personnage de psy comme ça qui vous a vraiment énervé dans la fiction, que ce soit, peut-être, on peut étendre si ça a été vu dans un film ou une série?
Non, mais moi je trouve que justement les figures de psy, elles ont bien évolué dans les séries et même dans les films aussi. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez du psy du Silence des agneaux ou de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous vous souvenez de ces films où les psys avaient été polis? Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était un psy qui était sadique. Dans Le Silence des agneaux, c'était un vrai fou. Bon. Tout ça, c'était quand même assez, même si c'était extrêmement intéressant, c'était quand même très, très très caricatural. Et moi, en fait, ce qui me déplaît dans une série, c'est quand on tombe dans la caricature du psy. C'est-à-dire plus fou que ses patients, pervers, manipulateur. Vous voyez ce genre d'exemple. Mais je dirais que quand même, dans l'ensemble, je trouve que les figures des psys, elles sont assez réalistes, même dans les séries les plus farfelues. Que ce soit au premier plan ou dans un second rôle, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'image du véhicule a évolué dans le bon sens du terme.
Great.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one. satisfying finale. That's
then,
it.
Then there has to be another one.
There's not.
I get my job. We're losing our house.
They owe us.
Who are they?
Ronald D. Moore.
He has to write more episodes.
Yeah.
You know what? We'll find him.
Alors, j'avais aussi envie qu'on prenne le temps de se pencher sur notre rapport aux séries. Il y a un discours, moi, qui me fatigue un peu autour de cette forme d'art qui est méprisée par certains milieux, médias. Beaucoup parlent d'addiction aux séries, alors que c'est pas vraiment un truc qui est prouvé scientifiquement. Il y a eu quelques études qui ont été menées, mais c'était sur le binge-watching et pas forcément sur les séries en elles-mêmes. Et ma question, c'est... et c'était du binge-watching sur des cas très extrêmes. Hein. On est sur 3-4 cas qui sont sortis en Angleterre. Alors, est-ce que les séries, elles sont aussi mauvaises?
Non, bien sûr que non. Et puis, ouais. À propos du binge-watching, on peut se poser la question de savoir si c'est la série qui rend accro ou si c'est l'état dans lequel on est qui nous installe dans le binge-watching. Hein. Donc là, moi, j'ai pas la réponse, mais c'est le genre de question qu'on peut se poser. Mmh. Non, moi, je trouve qu'au contraire, les séries, elles peuvent être thérapeutiques à plusieurs niveaux. Ouais. Et elles font pas de mal. Déjà, de par leur rythme régulier, leur durée, c'est quand même un plaisir de se mettre le soir, de s'allonger sur son canapé et de se mettre devant une série qu'on a entamée la veille ou l'avant-veille. Enfin, qui n'a pas connu la satisfaction après une journée bien remplie de s'allonger sur le canapé, de reprendre la série qu'on a entamée quelques jours auparavant. On fuit un peu la réalité, mais il y a là le plaisir de la répétition, retrouver des personnages connus, anticiper de ce qui va se passer. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que ça permet vraiment de créer un pont entre l'imaginaire et le réel. Et c'est un divertissement. Et pour certains sujets, ne nous éloigne pas du réel, mais nous permet justement de le voir différemment. Et ça, c'est extrêmement intéressant, voire de renouveler notre rapport critique à la réalité et parfois même nous donner des clés pour appréhender le monde. De ce point de vue-là, ça peut faire que du bien. Et je me dis que dans cette perspective, les séries, elles permettent de nous décentrer de nous-mêmes, de nous détendre, d'oublier nos épisodes du quotidien. Le quotidien n'est pas toujours facile en ce moment. Hein. Et ça, c'est le gros aspect thérapeutique à mon sens. Distraire, faire rêver, fantasmer, réfléchir, se retrouver. Et ça concerne aussi les séries de science-fiction. Ouais. Je me disais en vous écoutant, c'est un peu le fantasme de ce dont on n'est pas en capacité, avoir de super pouvoirs, voyager dans le temps. Qui n'a pas rêvé de voyager dans le temps? Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui font que finalement, ça fait du bien.
Oui, on vit ça par procuration un peu.
Exactement, exactement.
Oui, Annalise, pardon. Oui.
Si je peux rajouter quelque chose, je pense, oui, Marion, tu parlais tout à l'heure du besoin de voir des personnages LGBT, et je pense que le pouvoir des séries aussi, comme le disait Françoise, c'est de nous montrer autre chose, mais aussi parfois de se voir nous-mêmes représentés, et ça, c'est un besoin qui est très très fort. On parle beaucoup depuis quelques années de représentation et de l'importance que ça a pour la psyché. En fait, je pense que c'est très important, que ce soit pour des personnages LGBT ou racisés ou qui ont des problèmes de santé mentale ou n'importe quoi, en fait, enfin, juste de se reconnaître dans un personnage de fiction, c'est hyper important pour se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnages qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes aspirations ou les mêmes orientations que nous. Et ça, bah, pour moi, effectivement, oui, il peut y avoir une consommation peut-être excessive de séries, mais je pense que le sain est beaucoup plus important que le malsain. Et en l'occurrence, pour la représentation, enfin, c'est tellement important que pour moi, ça surpasse tout le reste et les problèmes de binge watching qui sont finalement assez anodins, quoi.
C'est vrai que les séries nous aident parfois à avancer dans des moments, soit des grands moments, on fait face à un deuil, à des situations complexes à gérer, ou juste dans notre quotidien. Moi, je me souviens par exemple que j'ai adoré Girls parce que ça jouait vraiment d'un effet miroir. Ça me rassurait de voir ces jeunes femmes avancer dans la vie, avoir peur, avoir des amitiés qui des fois semblent s'éteindre, enfin, comme un château de cartes s'écrouler, puis en fait qui renaissent de leurs cendres. Enfin bref, ces meufs-là, elles avaient les mêmes problèmes que moi. Est-ce que vous avez une série en particulier qui vous a aidé à traverser un moment difficile et qui a un peu joué le rôle de psy? Enfin, je mets des grandes guillemets, Françoise, je sais que les séries sont pas des psy, mais qui vous ont, enfin si, qui ont pu vous aider mentalement à traverser des moments.
Moi, je pense peut-être de façon plus générale, ce qui est intéressant avec les séries et donc ce dont parlait Françoise, le fait qu'il y a ce rythme régulier, on devient vraiment proche de ces personnages qui parfois nous ressemblent, parfois nous font voyager, c'est qu'on apprend aussi, quand la série se termine, à faire le deuil et donc à dire au revoir. Et finalement, peut-être, c'est une échelle de fiction et de personnages qui n'existent pas, mais ça peut nous aider à traverser ce genre de situation aussi, de devoir dire au revoir dans la vraie vie, en fait. Et ouais. Donc on cite souvent l'épisode final de Six Feet Under qui était vraiment vraiment difficile pour beaucoup de fans de la série. Il est très cathartique, on pleure un peu toutes les larmes de notre corps avec les personnages, on leur dit au revoir, mais c'est fait d'une façon satisfaisante qui fait qu'on est prêt à vraiment laisser aller la série, et de toute façon on sait où vont les personnages puisqu'on voit en fait tout le reste de leur vie jusqu'à leur mort. Donc ça peut aussi nous aider comme ça.
Moi, je n'ai pas vu le final de Six Feet Under pour cette raison. Ah non, mais je sais tout ce qui se passe dedans, hein, mais je ne veux pas le voir parce que justement, je ne veux pas faire ce deuil-là et que je pense que ça va être trop dur. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis, Marion.
Mais justement, Marion et Anaïs, moi, je trouve que Six Feet Under, il peut justement aider à mieux comprendre le deuil, en plus dans la mesure où la série n'est qu'une succession de deuils. Je pensais aussi à certaines séries qui peuvent permettre certaines personnes de traverser des périodes complexes telles que, par exemple, l'adolescence. Je pensais à Sex Education, qui aborde des problématiques qui ne sont pas toujours faciles à verbaliser ou à exprimer pour des adolescents. Et je pense que ça doit pouvoir les rassurer potentiellement de se dire qu'ils ne sont pas enfermés seuls dans une problématique. De ce point de vue-là, la série, elle est très bénéfique. Ce qui est cathartique de toute façon dans une série, c'est qu'elle touche la condition humaine, hein. Et c'est un universel qui va permettre de passer de l'intime au collectif. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en thérapie, hein, du reste.
Oui. Et je me posais, on avait un petit peu abordé cette question au début du podcast, mais on pourrait creuser un peu sur les séries qui peuvent jouer le rôle de catharsis, mais qui sont quand même peut-être potentiellement douloureuses à regarder. Je pense à la récente I May Destroy You de Michaela Coen, donc qui parle de viol et de comment on se reconstruit après un viol. Est-ce que ces séries-là, elles font du bien aux personnes qui ont subi des choses similaires? Est-ce que vous pensez que ça peut leur faire du bien ou du coup c'est presque trop littéral et qu'au contraire ça peut ne pas les aider?
Je pense que l'impact doit être fort. Effectivement, visionner ce genre de choses, ça renvoie à quelque chose qui est extrêmement douloureux chez celui qui le regarde parce qu'il a été concerné à un moment donné. Mais en même temps, ça lui permet de se dire qu'il n'est pas isolé, qu'il regarde quelque chose qui parle de lui, qui éventuellement donne des tentatives de résolution. Donc, ça peut constituer finalement une forme d'espoir, de résolution d'une problématique qui fait souffrir. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit encore une fois une contre-indication que de regarder une série qui parle d'un problème douloureux qu'on a vécu et qu'on n'a peut-être pas encore non plus résolu. Hein.
En quelque sorte, ça peut aussi faciliter par exemple, si c'est des sujets trop douloureux à aborder avec ses proches, c'est un peu l'idée de « Ah, j'ai un ami à qui c'est arrivé ». Bon, c'est le personnage en l'occurrence, mais ça peut permettre de libérer la parole et d'évoquer un sujet qui, sans dire « je », finalement, fait du bien et permettre de le confronter à son entourage ou peut-être d'en parler plus ouvertement, finalement.
Oui, et puis peut-être aussi inciter à se faire aider. Et ça, je crois que c'est important, hein.
Alors, depuis l'arrivée du Covid, les séries sont plus que jamais visionnées en masse. On en a parlé, elles représentent une forme d'évasion face à un quotidien qui est assez anxiogène. Et d'ailleurs, cette année aux États-Unis, c'est la série The Office, donc une comédie de bureau, qui a été la plus visionnée en streaming. Le choix de nos séries en dit long sur nos états psychologiques, non ?
Oui, Bah, en même temps, The Office. Alors moi, j'ai vu quelques épisodes. Hein. C'est pas une série qui m'a passionnée, mais je me disais que c'était une série chorale sur le ton de la comédie où les personnages partagent des interactions sociales au sein d'un bureau. Bon, et c'est la représentation de la vie au quotidien, au travail. C'est léger, c'est drôle, ça peut être assez réaliste. Ça raconte ce qu'on n'a plus aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on est en télétravail, on est tous devant nos écrans. Et peut-être que pour certains, même, ça parle d'une époque un peu révolue. Alors, peut-être que le besoin de renouer avec un passé qui n'est pas si lointain nous rassure, que notre présent, ben, en ce moment, il est compliqué par rapport à ces interrelations qu'on a perdues. Donc, je pense que le succès, il s'explique de ce côté-là aussi.
Oui, on est ce qu'on regarde au final.
Un peu,
non,
oui.
Mais c'est vrai que la nostalgie est très rassurante et peut-être qu'on peut demander à Anaïs qui re-regarde ou découvre Friends, qui est quand même une série pour beaucoup d'entre nous en ce moment, qui était aussi la plus regardée avec The Office sur Netflix, qui rassure, qui nous renvoie à une période peut-être d'innocence ou de temps plus simple, etc. Et c'est vrai que ce facteur nostalgie, un peu comfort food, il est très important en ce moment pour les spectateurs.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que moi, ça faisait longtemps que j'envisageais de faire ce projet, de regarder Friends pour la première fois avec une amie. Et on a décidé de le faire donc en septembre à peu près de cette année. Donc dans un podcast qui s'appelle Amis, et c'est vrai qu'honnêtement on n'aurait pas pu choisir meilleure période pour faire un projet comme ça, parce que découvrir Friends en ce moment, enfin moi ça me fait tellement de bien. Effectivement, il y a un aspect nostalgique très très fort, et en fait c'est marrant parce que Marie, l'amie avec qui je le fais, qui elle connaît la série par cœur, ça lui fait du bien aussi, et les gens qui nous écoutent nous ont dit que ça leur faisait du bien d'écouter même juste le podcast et de revoir la série en ce moment, parce qu'il y a vraiment un côté, effectivement, comme tu dis Marion, très rassurant, juste de revoir et de réentendre des scènes qu'on connaît déjà par cœur, et surtout des scènes aussi anodines, aussi inoffensives en fait que celles qu'il y a dans Friends. Donc ouais, effectivement, moi honnêtement, je suis très contente d'avoir choisi cette période de ma vie pour regarder Friends.
La carte blanche de l'ACS.
C'est l'heure de la carte blanche de Marion, qui va nous parler de Soulmates, qui est une anthologie amoureuse diffusée sur AMC en 2020 et qui vient d'arriver sur Amazon Prime. Marion, je te donne la parole.
C'est ça. Donc, on vient de sortir du week-end de la Saint-Valentin. Donc, j'ai choisi une série romantique avec un twist. Donc, Soulmates, comme son nom l'indique, c'est âme sœur. Et donc, c'est une série qui nous entraîne dans un futur proche et qui nous rappelle effectivement l'ambiance et les thèmes de Black Mirror, qui était aussi une série d'anthologie. D'ailleurs, l'un des showrunners de Soulmates était scénariste sur la série anglaise. Et en fait, on est dans un monde où il existe une société qui s'appelle Soul Connects, qui permet à chacun de passer un test qui va analyser vos données personnelles et va trouver votre âme sœur. Votre âme sœur unique. Et si elle-même a aussi passé le test et qu'elle est dans le système, vous aurez un match. Et donc, la série pose la question, mais que faire de cette information cruciale ? Et elle nous entraîne d'abord dans l'histoire d'un couple marié avec deux enfants qui semblent baignés dans le bonheur. On retrouve deux acteurs très, très bien, donc Sarah Snook qui était dans Succession et Kingsley Ben-Adir qui est dans High Fidelity et qui jouait Obama dans The Comey Rule. Et en fait, on voit comment leur couple va traverser cette épreuve ou ce questionnement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la série ne définit jamais vraiment qu'est-ce que ça veut dire « soulmate », « âme sœur ». C'est censé être une certitude technologique pensée par un ordinateur ou un système super puissant, mais en même temps, on est dans le domaine de l'humain. Donc, immédiatement, le spectateur s'amuse à anticiper des cas de figure. Donc, si, par exemple, voilà, si on est déjà marié, mais si l'âme sœur est à l'étranger, qu'elle ne parle pas la même langue, si elle est décédée, et si c'était une personne du même sexe, alors qu'on s'est toujours pensé hétérosexuel. Donc, en fait, la série vraiment décline ces interrogations avec des configurations romantiques et éthiques différentes. Aussi, un passage parfois entre le drame, l'humour. On a des épisodes plus dans le thriller ou même un peu une touche d'horreur. Et donc, c'est vraiment cette friction entre le déterminisme romantique qui est vendu par cette société, parce qu'il faut quand même payer un certain prix pour savoir ai-je une âme sœur, est-elle déjà dans le système et qui est-elle? Et en même temps, que font ces individus qui ont leur propre volonté, leur propre histoire, leur propre croyance avec cette information? Et donc, vraiment, c'est très intéressant de voir que est-ce que avoir une confiance aveugle dans la machine, est-ce que ça va nous rendre plus heureux? Et Soulmates questionne en fait ce fantasme. Est-il possible d'avoir une vie romantique parfaite? Et bien sûr, s'amuse avec, parce que évidemment, trouver l'âme sœur ne devrait pas être une conclusion, mais un point de départ romantique. Donc, on se plonge avec plaisir dans cette série qui a un casting impeccable. Et voilà, je crois qu'il y a 8 épisodes.
Merci beaucoup, Marion. On ira découvrir Soulmate. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette séance qui, j'espère, aura été autant thérapeutique pour vous que pour nous. Un grand merci à mes invités, Françoise Hirsch, psychologue, clinicienne et conseillère en psychologie des personnages, donc chez Hirsch Barfetti. Anaïs Bordage, co-présentatrice des podcasts Ami et Pic TV à Slate. Et Marion Miclet, critique série pour Le Point Pop. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un épisode de J'arrête avec Beta Série. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un like sur notre page Facebook, à retweeter notre podcast et à noter un épisode et j'arrête sur Apple Podcasts. Prenez soin de vous.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.